Oui, mais présenté sous forme de deux quatrains de tercé, dans la forme d'un sonnet, les rimes sont embrassées, les deux quatrains et le premier tercé. Elles sont sous la forme plate dans le second tercé. Nous allons parler d'un texte issu de correspondance, plus précisément un poème de Charles Baudelaire, né en 1821, mort en 1867. Le poème est tiré d'un recueil s'intitulant Les Fleurs du Mal, édité en 1857. Nous commencerons par la première partie qui est la forme du poème et finirons par la seconde partie qui est le sens du poème. Alors, Gico vers 3, ça range Baudelaire dans les derniers de romans antiques, dans les premiers des symbolistes. On a au niveau des rimes A, B, B, A et C, D, D, C et E, F, E, F. Il utilise une alternance de rimes masculines et féminines. La barre des deux rimes suivie à la fin du poème.
Sur la question des rimes masculines et féminines, avec une certaine forme de licence, hein, parce que on termine sur DE muet non prononcé, mais il y a quand même une consonne à la fin. Donc c'est vrai qu'un puriste vous dirait, il n'y a pas de rime féminine puisque ça se termine par une consonne. Hein, donc il faut faire attention à ça. Il vaudrait mieux être prudent et dire des rimes qu'on peut considérer comme féminines, hein, bien qu'il y ait une consonne à la fin. Par exemple, parole, symbole. Par exemple, confondre, répondre, termine quand même par deux consonnes. Par exemple, prairie et infini, que je veux bien considérer comme féminines, mais qui ne sont pas... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette règle d'alternance des rimes masculines et féminines... À l'époque, au 19e siècle, globalement, on abandonne cette règle-là. Alors que c'était une règle presque absolue dans la poésie classique. Donc on va revenir un petit peu sur le début, hein, puisque dans tout ce que tu m'as dit, il manque un certain nombre de commentaires concernant le poème lui-même. Vous savez aussi que vous pouvez vous documenter sur le site dans la partie révision. Il est question du dialogue entre l'homme et la nature. On sent que derrière l'homme, il y a très probablement, enfin, il y a l'homme, mais il y a aussi une troisième présence qui est celui qui parle et qui est le poète, hein, qui nous fait ce commentaire. Ce qu'on peut dire dans les deux premiers vers, bon, à part l'histoire des vivants piliers, je crois vous avoir montré, il me semble, hein, qu'on vous a montré des images d'une forêt cathédrale, c'est bien à vous qu'on a fait ça, je rêve ou quoi, peut-être pas à vous alors. Donc ici, comparaison entre la forêt et une cathédrale, une église. Les piliers étant les arbres, la nature est un temple, c'est un renvoi aux religions antiques, puisqu'en principe, on dit, chez les catholiques en tout cas, église, cathédrale, c'est vrai que chez les protestants on dit temple, mais bon, à ma connaissance, Baudelaire n'était pas protestant, donc c'était plutôt de culture catholique, hein. De toute façon, l'imagerie, la base des Fleurs du Mal, c'est une base chrétienne, puisque... à partir du moment où on parle du mal, hein, c'est l'opposition, le mal et le bien, alors évidemment que ça pourrait se transposer dans d'autres religions, mais bon, la religion de culture de Baudelaire, ben, c'est le christianisme. Donc ça renvoie à des éléments qui sont des éléments de la poésie de l'Antiquité, d'une certaine manière, aux religions ou à la religion de l'Antiquité. On est là dans une image donc d'un poème classique. Hein, ça pourrait être le début, à la limite, ça pourrait être un poème du XVIe siècle, ça pourrait être un poème latin, ou même un poème grec, hein, pour ce qui est ici du début. Et d'ailleurs, cette nature animée, hein, vous savez que on appelle animisme le fait de donner de la vie aux objets et aux choses, hein, on a ça dans les cultures primitives. Donc voilà, le début, on est dans un décor antique, d'une certaine façon, dans un décor de poésie classique et traditionnelle. On pourra dire, mais je pense qu'on peut le dire d'un bon nombre d'artistes, hein, que Baudelaire est entre tradition et modernité, comme on a dit d'une certaine façon, tu viens de le dire, qu'il était entre romantisme et symbolisme. Deux vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. On appelle ça la prosopopée. Qu'est-ce que c'est que la prosopopée ? C'est faire parler un être inanimé. Alors je dis bien faire parler un être inanimé, ça n'est pas parler à un être inanimé. Si vous parlez à un être inanimé, ça s'appelle tout bêtement une apostrophe. Hein, si vous dites « ô forêt, ô grand bois », ben, vous êtes dans l'apostrophe. Ce qu'il y a d'un peu dommage dans cette histoire, c'est que quand vous apostrophez quelqu'un qui est animé, on emploie exactement le même terme. Je n'ai pas de terme plus précis et pour ça, je le regrette un peu. Donc, prosopopée, on fait parler les arbres, en vous rappelant que dans l'Antiquité, les arbres étaient censés être habités par des dieux ou des déesses, et que c'est à partir de cette idée-là aussi qu'on essayait de se faire pardonner quand on coupait un arbre, en replantant éventuellement un autre. Alors, sur les confuses paroles, eh bien, on avait parlé de la pitié de Delphes, hein, des oracles. Il y a derrière l'idée qu'il pourrait, que la nature nous parle. On va peut-être pas parler de dialogue avec la nature, parce qu'il n'est pas question pour l'instant que l'homme parle à la nature. Même si dans la poésie, ce sont des choses qui arrivent, hein, d'apostropher un décor. Il faut remarquer au vers 2 aussi le parfois, laisse parfois, c'est-à-dire la nature ne parle pas toujours. Donc, sous-entendu qu'il faut des circonstances favorables ou particulières pour qu'on entende des messages de la nature. Et les paroles sont confuses, c'est-à-dire que c'est à déchiffrer. Alors, dans la famille, bien entendu, c'est-à-dire dans l'idée de parole à déchiffrer, vous avez confuse, vous allez avoir symbole au vers 3, vous allez avoir les échos qui se confondent au début, là, au premier vers du deuxième quatrain, et puis dans l'idée des paroles, vous allez avoir les longs échos au premier vers du deuxième quatrain, et puis également se répondre au vers 4, du deuxième quatrain. Et puis peut-être, qui évoque également les paroles, le dernier vers du deuxième tercet qui chante les transports de l'esprit et des sens. Alors j'oublierai peut-être de le commenter après, on peut commenter le terme transport. Qu'est-ce que ça veut dire transport de l'esprit et des sens ? Par quel terme est-ce que vous traduiriez le terme transport ? Je suis transporté. Alors on va dire transporté de joie, c'est-à-dire emporté par, enthousiasmé. Le terme transport ici pourrait être remplacé par le terme enthousiasme. Les enthousiasmes de l'esprit et des sens. Mais peut-être aussi simplement émotion. Et surtout que dans émotion, vous avez motion qui veut dire, signifie mouvement, on est tout à fait dans l'idée de transport. Hein, on reste dans l'étymologie, dans le sens étymologique.